rappeler, j'ai donné au frère un diaporama aussi avec ce titre, Chercher l'Éternel. On est tous et toutes appelés à chercher. Chercher à connaître et à trouver l'Éternel. Mais il est difficile de chercher sans nous donner une direction. Sans dire, écoute, tu vas par là-bas et tu vas trouver. Il est difficile de chercher quelque chose sans savoir quoi chercher. Je ne sais pas si chez vous, généralement, quand vous fouillez, vous cherchez vos clés, c'est vos clés que vous cherchez. Cherchez pas votre téléphone, hein. Souvent, le téléphone, on le trouve plus rapidement que les clés. Il est difficile de chercher justement sans avoir aucun renseignement. Qu'est-ce que tu cherches? Je ne sais pas. Et où? J'en sais rien. Et pourtant, la parole de Dieu nous invite à chercher. Et j'aimerais partager avec vous un texte qu'on connaît par cœur dans Ésaïe 55. À partir du verset 1er jusqu'au verset 7, où il nous est dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, vous qui mangez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations que tu ne connaissais, qui ne te connaissent, pardon. Qui ne te connaissent pas, excusez-moi, accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. C'est vrai que ce sont des paroles que nous avons l'habitude d'entendre. Des mots qui sont habituels à nos oreilles. Mais quand on regarde, et j'aimerais placer ce texte dans son contexte, quand on regarde le livre d'Ésaïe, c'est un livre magnifique, parce qu'il nous retrace une partie de l'histoire d'Israël qui est tenue en captivité à Babylone. Et quand on regarde dans ce livre, on voit que Dieu va encourager son peuple. Dieu va se rappeler au cœur de son peuple. Dieu va intervenir auprès de son peuple. Et à partir du verset 53, même il va aller plus loin parce qu'il va parler du salut qui est en Jésus, du chapitre 53, il va parler du salut qui est en Jésus-Christ. Il y a là tout cet enseignement que Dieu donne à son peuple, où vraiment, non seulement il parle d'une délivrance, c'est vrai, physique, matérielle, où le peuple ne sera plus soumis à d'autres dieux, à la direction d'un roi complètement étranger, mais il va l'amener dans un salut éternel. En annonçant Jésus-Christ. Au chapitre 54 du livre d'Ésaïe, on voit que Dieu parle de la gloire qu'il a, qu'il manifeste, d'une gloire qu'il partage avec son peuple, qu'il veut rétablir son peuple, la gloire qu'il a eue d'antan. Et je ne parle pas seulement d'une gloire matérielle, parce que quand on regarde le peuple d'Israël, une fois sorti de Babylone, le peuple n'est plus pareil qu'avant. Il n'a plus autant d'argent, autant de puissance qu'avant. Mais Dieu est avec ce peuple-là. Et c'est de cette gloire que je veux parler. Cette gloire que Dieu veut partager avec son peuple. Et ici, dans le chapitre 55, c'est un appel à vivre de la grâce de Dieu. Venez à moi. Toutes ces vérités que l'on peut trouver, tout ce que Dieu donne, tout ce qu'il est à s'en nourrir, à vraiment s'en délecter, à vraiment le manger chaque jour et à s'en rassasier. Il y a vraiment cette vérité-là. Et pourtant, même si c'est vrai, combien de fois on a cité ce verset à une personne inconvertie en lui disant « Mais viens à Christ. Hein? Le Seigneur nous invite à boire, nous invite à le chercher et à le trouver. » Mais pour l'Église, c'est encore une réalité et c'est une nécessité pour chacun d'entre nous. Tout à l'heure, notre frère parlait des jeunes, des ados, avec dans le siècle dans lequel ils sont, avec les tensions dans lesquelles ils vont grandir. Mais pardonnez-moi, l'Église de Jésus-Christ a besoin de chercher l'Éternel encore aujourd'hui. Et c'est encore plus vrai que ce que cela a été hier. Et quelle grâce de pouvoir chercher l'Éternel. Cela rejoint ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens, la diapo juste après. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, d'où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Sommes-nous conscients que nous sommes appelés au salut? Sommes-nous conscients que nous avons été rachetés? Sommes-nous conscients que Christ est encore un secours aujourd'hui pour tous ceux qui se confient en lui? La première question que j'aimerais partager avec vous est celle-ci. Pourquoi dépenser pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi dépenser pour ce qui ne nourrit pas? Nous l'avons lu et nous avons vu ces hommes et ces femmes qui dépensent de l'argent. La question paraît peut-être insensée. La question paraît, on dirait, aujourd'hui, je ne mettrai pas dans l'argent dans quelque chose qui ne sert à rien, qui n'a aucune valeur. Je ne vais pas acheter un objet qui va me casser entre les mains une fois que je l'aurai reçu. Je vais acheter quelque chose de qualité qui va tenir dans le temps. Mais il y a cette réalité et cette réalité spirituelle où vraiment cet état de cœur où ce peuple est en train de dépenser tout ce qu'il a vers d'autres dieux, vers d'autres raisonnements, vers d'autres principes. Cette question est pleine de bon sens parce qu'elle nous appelle à réfléchir et déjà sur le premier aspect, pourquoi dépenser? Pourquoi dépenser? Avez-vous déjà essayé dans les fêtes foraines la machine avec le grappin? Hein, c'est un attrape-nigaud, hein, on est d'accord. Mais vous avez vu comme les gens sont accros parfois et mettent de l'argent. Et ils mettent de l'argent. Et ils mettent de l'argent. Je vais l'avoir. Et ils mettent de l'argent. Tout ça pour une peluche à 2 euros. Hein, et ils mettent de l'argent. Et ils mettent de l'argent. Mais parfois, on est comme ça. On a cette attitude-là, finalement. Regarde, il y a ça qui est intéressant. Je vais donner de mon temps. Je vais y passer mon énergie. Je vais faire le nécessaire pour l'obtenir, pour satisfaire mon âme. Et on voit justement dans le livre de l'Exode, le peuple d'Israël agir de la même manière. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et ils ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Je ne sais pas si vous imaginez la situation de ce peuple. Quand le peuple va quitter l'Égypte, il va quitter l'Égypte les poches pleines, habillé de la tête aux pieds et avec des bijoux que le peuple égyptien aura donné au peuple d'Israël. Dieu fait cette grâce au peuple d'Israël. Et on voit ce peuple qui, avec cette richesse-là, va tout donner à Aaron pour qu'il façonne un dieu, pour qu'il se crée une image. Il va dépenser inutilement ce que Dieu lui a donné pour avoir un autre Dieu, pour avoir quelqu'un qui marche devant lui. Le peuple va dépenser tout ce qu'il a pour avoir un beau veau d'or. C'est sûr qu'il devait peser lourd, qu'il devait être beau, magnifique. Mais quelle est l'utilité derrière cela? Et parfois, on court après certaines richesses, qu'elles soient peut-être spirituelles ou même matérielles. On cherche certaines choses pour satisfaire notre propre personne et on est prêt à dépenser. Et en fait, on est dans la même situation que cette machine à grappin. On va essayer de l'attraper, mais on ne réussit pas. Et on ne réussit pas. Et on va remettre encore de l'argent. Et on va remettre encore de l'argent. Un autre exemple, c'est cette femme à la perte de sang. La parole nous dit qu'elle va dépenser tout ce qu'elle avait pour être guérie. Me direz-vous, c'est normal, la pauvre, elle a besoin. Oui, c'est logique. Mais elle va dépenser tout ce qu'elle avait pour être guérie. Et je ne sais pas, je ne sais pas quel était l'état de son cœur à ce moment-là, mais quand elle a trouvé la grâce auprès de Jésus-Christ, le secours. Le texte nous montre une femme rétablie, réjouie et pardonnée. Et quelle grâce pour cette femme. Notre texte nous le dit, venez acheté sans argent et sans rien payer. Si je peux prendre une référence dans la parole de Dieu, c'est la parabole des noces que l'on trouve dans Matthieu 22, où le maître de la maison va dire à ses serviteurs, « Allez appeler tout le monde, la table est prête, elle est mise. » Et on connaît la suite, tous les invités vont refuser. Et le maître invitera, dira à ses serviteurs, « Allez par les chemins, dans les croisements, allez chercher ceux qui sont pauvres, habillez-les et faites-les venir aux noces. » Venez, sans acheter, sans argent. Venez manger. Pourquoi dépenser de l'argent quand tout est à disposition? Pourquoi dépenser, et ça sera ce deuxième point aussi, pour ce qui ne nourrit pas? Aujourd'hui encore, la nourriture est un sujet essentiel. Avant, on nous disait manger 5 fruits et légumes par jour. Et de plus en plus, on voit, et le sujet de l'obésité, on commence à entrer dans les journaux, dans les auprès des médecins. Je me rappelle une fois, quand on était sur Bourges avec mon épouse, je passe une visite médicale et je monte sur la balance. L'infirmière a été sympa avec moi, elle me dit, monsieur, vous êtes obèse. Oula, c'est quand même fort ce que vous dites. D'accord, j'ai de l'embonpoint, je me porte bien, grâce à Dieu. Ma femme me nourrit bien, j'ai pas de problème de ce côté-là, mais obèse, faut pas exagérer. En fait, tout ça parce que j'avais dépassé de 3 kilos la moyenne. Monsieur, vous êtes obèse. Et il y a vraiment là cette inquiétude. Quand on parle de nourriture, et même la parole de Dieu, quand elle parle de nourriture, elle nous parle d'un véritable équilibre. Elle nous parle pas de McDo, KFC, BK. Elle nous parle pas de ces choses-là qui ne nourrissent pas le corps. Une véritable nourriture, elle est équilibrée, elle est saine, elle est bonne pour la santé, elle est digeste, elle permet justement de grandir normalement. Pour ceux qui sont parents, et même nous avons tous été enfants, les légumes à un moment donné, on les aimait pas trop. Hein. C'était pas notre tasse de thé. Hein. Peut-être les épinards, les petits pois, je sais pas. Hein. Mais c'était pas ce qu'on préférait. Et pourtant, c'était bon pour notre corps. C'était utile pour notre croissance, c'était nécessaire. Et il y a vraiment tout cet aspect-là qui nous est présenté. Et cette question, pourquoi dépenser pour ce qui ne nourrit pas? Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage de cet homme qui a essayé pendant 30 jours de manger McDo matin, midi et soir. Il n'a pas fini son challenge. Les médecins l'ont arrêté. Son corps était en train d'être, non seulement il a pris énormément de poids, mais en plus son corps était malade. Ses organes, il avait du mal à digérer, à vraiment ingérer cette nourriture. Et on voyait cet homme, et les médecins lui ont dit, arrêtez tout, sinon ça va être irréversible. Pourquoi se nourrir de choses qui vont, excusez-moi, mais nous empoisonner? Pourquoi se nourrir de choses qui sont parfois néfastes pour nos vies? Dans la diapo suivante, j'ai mis cette réalité. Vous tous qui avez de soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Et pardonnez-moi, mais ce texte et cette image qui est prise du vin et du lait est belle parce que finalement, le Seigneur ne donne pas une nourriture basique. Ce n'est pas seulement quelque chose qui était au fond du placard. Écoute, il me reste ça aujourd'hui, je te le donne. Du vin et du lait. Ce sont des aliments de qualité, des aliments nobles. Et Dieu nous nourrit de choses qui sont non seulement nécessaires, mais qui sont véritablement bonnes. Et la pensée de ce texte va même plus loin. Si on boit trop de vin, qu'est-ce qu'il arrive? Vous pouvez le dire. Hein. On s'enivre. Et si un nourrisson boit trop de lait? Qu'est-ce qui lui arrive? Il est ivre. Vous n'avez jamais vu un nourrisson ravi une fois le ventre plein avec la goutte de lait qui lui coule sur la joue? Et ça nous parle de toute la plénitude que Dieu veut donner. Je ne dis pas qu'il faut s'enivrer. Hein. À midi, soyons sobres. Mais la parole nous montre vraiment cet aspect où Dieu veut faire goûter toute sa plénitude. toute cette miséricorde, toute cette grâce, toute cette vie qu'il a à partager. Et au travers de ces aliments, qui sont des aliments chers, Dieu nous montre tout ce qu'il veut livrer. Dans la première lettre de Pierre, il est écrit « Désirez avec ardeur, comme des enfants nouveau-nés, le lait pur qui se trouve dans la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, afin que par lui vous grandissiez, que vous soyez stable, que vous soyez fort. » La deuxième question que je nous pose ce matin, la diapo suivante, quelles sont les grâces assurées ? On a lu ce verset, « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers et David. » Et ce qui a attiré mon attention encore dans ce texte, c'est ces mots, « Une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. » Et j'aimerais partager, c'est vrai, le premier aspect, une alliance éternelle. Ce n'est pas ce n'est pas un remariage dont Dieu parle. Mais Dieu parle, c'est vrai, de la nouvelle alliance. Ésaïe 53, où Dieu annonce Jésus-Christ, qui va racheter les vies, pardonner et justement nous rattacher à Dieu, nous consoler avec le Père. Dieu parle d'un engagement qui ne durera pas un temps, mais éternellement. Et quand on regarde la première alliance, et même si vous lisez encore Ésaïe, vous vous apercevrez que le peuple d'Israël a rompu cette alliance avec Dieu, cette première alliance. Et là, Dieu nous parle de la nouvelle alliance. Jérémie va écrire « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison de l'Éternel et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Non comme une alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoi qu'ils fussent leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et j'aime beaucoup ces paroles. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Une chose qui n'était pas possible avant sous l'ancienne alliance. Mais une grâce que Dieu accorde pour tous ceux qui s'humilient devant lui, pour tous ceux qui veulent marcher avec lui. Je leur écrirai mes lois, mes commandements dans leur cœur pour qu'ils marchent et qu'ils obéissent. C'est une alliance qui ne peut pas être corrompue. C'est une alliance que Dieu fait par Jésus-Christ, son Fils. C'est une alliance où Dieu non seulement s'engage, mais se donne avec chacun d'entre nous. C'est sa personne qu'il transmet. C'est ce qu'il est. Dans Ésaïe 53, verset 5, il nous est dit, c'est vérité, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On les connaît par cœur, mais comprenez que derrière ces vérités-là, c'est la personne de Dieu que nous recevons. Ce n'est pas rien ce que Dieu nous donne, et ce n'est pas simplement une délivrance pour ce temps présent, mais c'est un salut éternel qu'il partage avec nous. C'est une vie invraisemblable. Un secours que l'on ne mérite pas, une consolation que le monde ne peut imaginer. C'est vraiment tous ces aspects où Dieu veut travailler dans les cœurs et s'inscrire en chacune des vies. C'est là la grâce de Dieu. Cette alliance que Dieu donne par Jésus-Christ s'inscrit véritablement dans les cœurs. Et quand il rappelle la promesse de David, il rappelle aussi la miséricorde de Dieu. Dans 2 Samuel, chapitre 7, versets 14 et 15, il nous est dit « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait mal, je le châtierai avec une verge d'homme, des plaies de fils d'homme. Mais ma grâce ne lui sera pas ôtée, comme je l'ai ôté de Saül, que j'ai ôté devant moi. » On connaît l'histoire de Saül. Et surtout cet épisode quand il va se retrouver dans une situation où il va devoir livrer bataille. Et Samuel lui dit, attends-moi pour les sacrifices. Mais Samuel tarde un peu à arriver. Il connaît un peu le quart d'heure marseillais. Il arrive à la bourre. Et le peuple qui commence à parler derrière Saül, qui commence à douter de Saül. Et Saül va désobéir. Saül va désobéir. Et Dieu, lui, va se retirer de Saül. Dieu va s'éloigner de Saül. Et quand on regarde à l'inverse la situation de David, et notamment la situation qui va y avoir avec Bathsheba, où il va pécher David. Et quand le péché lui sera montré, il va s'humilier, pardonner, et Dieu va lui faire grâce. Dieu est un Dieu de miséricorde. Et ce texte, justement, comme nous l'avons lu, pour rendre durable mes faveurs envers David, Dieu veut manifester sa miséricorde pour chacune de nos vies, pour ce peuple. Il veut être un Dieu miséricordieux. Et pardonnez-moi, mais je ne parle pas de tolérance ce matin, où aujourd'hui il faut accepter tout et n'importe quoi. Je ne parle pas de ce slogan qu'on a déjà entendu, « Venez comme vous êtes, le Seigneur vous acceptera ». Non. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est celui non seulement qui pardonne, mais il est celui qui soutient nos vies durant la marche. Il est celui qui tend la main, il est celui qui soutient, il est celui qui console, il est celui qui rétablit. Il est celui qui œuvre et tous ses bienfaits, Dieu veut les déverser tout au long de nos vies, comme il l'a fait pour David. David était l'homme selon le cœur de Dieu parce que Dieu était avec lui. Pas parce que David était trop fort, mais parce que l'Esprit de Dieu était avec lui, parce que l'Esprit de Dieu l'accompagnait, parce que l'Esprit de Dieu marchait avec lui et parce que Dieu était avec lui. Et de la même manière, dans nos vies, chaque jour, nous pouvons marcher non pas parce qu'on est trop fort. Je suis un pasteur depuis quelques années. Spirituellement, ça va très bien. Imaginez votre pasteur qui est en train de dire ça devant vous. Hein ? Je suis un très bon pasteur. Je tiens spirituellement. Ce serait de l'orgueil. Faut être honnête. Faut être honnête. Mais c'est une grâce de pouvoir marcher, non seulement avec Dieu, mais par Dieu. C'est une grâce que Dieu veut manifester. La troisième chose, c'est le règne éternel. Et il ne s'agit pas de nos vies. Parce que dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 16, il est dit « Et ta maison et ton règne sont pour toujours assurés devant toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » Et là, c'est pareil, ça revient et on revient sur Christ. La parole nous dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il est assis à la droite du Père où il a toute autorité. Si vous lisez la lettre aux Hébreux, dans les mots, il y a toute cette présentation. Non seulement la souveraineté de Christ sur toute chose, mais c'est aussi Christ comme médiateur, Christ comme avocat. Il y a tous ces aspects que nous retrouvons en la personne de Christ, où il est celui qui, justement, intervient en notre faveur auprès de Dieu. Il est celui qui nous permet de nous tenir dans la présence de Dieu. Son règne est éternel. Il règne à tout jamais. Et quelle grâce! L'apôtre Paul le dira dans la lettre aux Éphésiens, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. » Et regardez cette lettre. Soulignez le nombre de fois où il est dit « en lui, en Christ ». Comptez le nombre de fois où l'apôtre Paul revient à chaque fois sur chacun des bienfaits, chacune des bénédictions, où il est marqué à côté « en lui, en Christ ». C'est par Christ que nous vivons aujourd'hui. Et c'est Christ qui règne sur nos cœurs, sur nos vies. Un peu plus loin dans la lettre aux Éphésiens, il nous est dit même « il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » C'est une grâce, non? On est encore sur terre et on est déjà citoyen du ciel. C'est quand même merveilleux. C'est une grâce de pouvoir être dans la présence de Dieu par Jésus-Christ. Une troisième question. toute simple celle-ci. Comment chercher Dieu? La première chose, venir à lui. Venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. L'évangile de Matthieu nous rappelle ce verset, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Combien de fois on s'est dit « Non, Seigneur, il n'y a pas besoin. » Imaginez-vous dans une situation difficile, un problème quelconque, plus ou moins grave. Quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Tiens, j'ai la solution, fais ça. » Et vous regardez cette personne, vous lui dites « Non, merci, t'es gentil, mais non, merci. » Nous avons toujours besoin d'être soutenus. Nous avons besoin d'être accompagnés. Frères et sœurs, il y a une réalité qu'on retrouve dans les écrits d'Ésaïe, c'est que l'homme est imparfait. Le peuple de Dieu était imparfait. C'est Dieu qui le rend parfait. Ce n'est pas lui-même qui va se rendre parfait. Et parfois, quand on prend ce passage, pareil, on le catégorise, c'est pour une certaine catégorie de personnes. Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. S'adresse à toutes les catégories de personnes. Que l'on soit inconverti, que l'on soit converti depuis un mois, ou qu'on ait 20 ans ou 30 ans de conversion, ou même plus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Connaissez-vous la consolation qui est en Jésus-Christ? Et frères et sœurs, je parle sincèrement. Connaissez-vous l'encouragement qui est en Jésus-Christ? Connaissez-vous la joie qui est en Jésus-Christ? Marcher avec lui et vraiment être soutenu par lui. Et ce matin, au travers de ces chants, nous avons chanté toutes ces vérités. Mais est-ce que nous le vivons pleinement? Est-ce que chaque jour je peux l'expérimenter? Est-ce que régulièrement dans ma vie, j'ai cette joie de pouvoir appartenir au Seigneur et de marcher avec lui? N'attendons pas de tomber de fatigue. N'attendons pas même, je dirais, d'être à l'article de la mort pour demander à Dieu un soutien. Et c'est pareil, que l'on ait 2 mois de conversion, que l'on soit inconverti, que l'on ait 20 ou 30 ans de conversion, n'attendons pas la dernière minute. Je disais la dernière fois, à l'église, je suis un peu spécialiste de la dernière minute. L'année dernière, j'ai fait une chute et une grosse douleur à l'épaule. Bien sûr, je ne suis pas allé voir un médecin tout de suite. J'ai attendu 3 mois. 3 mois. Et au bout de 3 mois, la douleur était insupportable. C'est comme si on m'avait planté un couteau dans l'épaule. Et mon épouse, elle me dit, écoute, on va faire le nécessaire. On va voir les médecins, on passe les radios. Et puis j'ai rendez-vous avec un chirurgien parce que le radiologue a dit, c'est pas bon. Et le chirurgien, quand il a regardé la radio, il m'a regardé direct, il me dit « Bon, on vous opère quand ?» J'avais tous les tendons de l'épaule qui étaient déchirés et certains rompus. J'avais attendu la dernière minute. Si j'avais pris cette douleur plus tôt, peut-être que les soins auraient été moins importants, moins longs, parce que j'ai passé une année le bras non seulement immobilisé, mais aussi à rééduquer tout le bras, toute l'épaule. Et parfois, la vie spirituelle, on fait pareil. On attend la dernière minute. On attend d'être à terre. On attend de tomber avant de s'en remettre à Dieu, de s'en remettre à sa bienveillance, à son soutien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Justement, ça m'amène au deuxième point, venir à lui, mais humblement. Dans le premier verset, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Et si Ésaïe écrit de cette manière-là, c'est qu'il y en a qui ont du pognon. Ils ont le portefeuille bien rempli. Mais Dieu ne s'attache pas à ces apparences-là. Dieu ne prend pas un intérêt à dire « Ah oui, Tu as beaucoup de choses, toi. Tu seras béni en premier. Allez, viens. Je vais passer ton dossier sur le dessus. Ou même parfois, à l'inverse, nous-mêmes, on pense mériter devant Dieu plus de bienveillance, plus de bénédiction, parce que, ben, Seigneur, je sers à l'église. Je suis au club du dimanche, je m'occupe des petits. Je suis avec les ados, la jeunesse, je fais chanter. Je fais le ménage. Seigneur, je fais des choses pour toi. Écoute, si tu peux me passer ma requête là sur le dessus, ça serait bien. Hein. Et parfois, on essaie de s'arranger avec Dieu de cette manière-là. Mais Dieu ne tient pas compte de ce que nous faisons. Mais il tient compte de ce que nous sommes, de notre état de cœur, de la manière dont nous nous présentons devant lui. Je peux être président de la République et me présenter humblement devant le Seigneur. Je peux être un exploitant agricole, un paysan, et me présenter humblement devant le Seigneur, et les deux seront reçus de la même manière devant Dieu. Les deux seront entendus de la même manière devant Dieu. Les deux seront accueillis vraiment de la même manière devant Dieu. Jacques nous rappelle cette vérité. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et frères et sœurs, je précise, ce n'est pas se dire, s'approcher de Dieu en disant: je ne vaux rien, je suis impitoyable, je suis minable, je ne suis pas grand-chose. Le Seigneur le sait déjà. C'est être sincère et reconnaître ce que nous sommes devant Dieu. Nous avons besoin, j'ai besoin de Dieu, de son secours. Ésaïe le dit au verset 6 et 7, pardon, du chapitre 55, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne ses voies et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Et qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, Dieu aura pitié de nous. Nous pouvons venir à lui humblement, mais il nous faut être à l'écoute. À l'écoute. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. En tant que pasteur même dans la formation, j'ai appris à faire des visites. Et parfois, les visites, je vous avoue que certaines sont fatigantes. C'est toujours un plaisir de rendre visite les uns aux autres, et je sais que j'aime bien prendre le temps les uns avec les autres. Mais il arrive parfois où les visites, les sujets, c'est toujours les mêmes. Les doléances, c'est toujours les mêmes. Et c'est pas intéressant. Et on pense perdre notre temps dans ces moments-là. Enfin, j'ai pensé perdre mon temps parfois, je vous le dis sincèrement. Mais il faut être attentif. Il faut écouter. C'est pas ce que je pense qui compte, mais c'est écouter l'autre. Et quand la parole de Dieu nous parle d'écoute, parfois on n'a pas très envie d'écouter la parole de Dieu. Pff, le sujet, il est lourd là. Il est rébarbatif ton sujet là, Seigneur. Mais c'est toujours les mêmes doléances, toujours les mêmes demandes, toujours les mêmes choses. Et parfois, on réagit comme ça avec la parole de Dieu. Pourtant, il nous faut être à l'écoute de ce que Dieu nous dit et nous donne. Sa parole est vraiment tranchante comme une épée à double tranchant. Elle va travailler nos cœurs, nos âmes. Elle va édifier nos vies. Elle va nous encourager. Ce n'est pas seulement un livre de promesses, la parole de Dieu. C'est vrai que c'est un livre de jugement. Mais ce sont des paroles d'encouragement qu'on trouve aussi. Ce sont des paroles de vie. Des paroles qui vont faire du bien à notre cœur. Là, Matthieu 4,4, Jésus le dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement quand il sera tenté par Satan, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et encore une fois, c'est un appel à la vie. Un appel au salut dans ces mots-là, un appel à l'éternité. Ce à quoi nous sommes tous et toutes appelés. Vivre de ce que la parole nous donne. C'est pas prendre la Bible et brancher des écouteurs, hein, vous avez bien compris. Mais c'est être attentif, méditer cette parole-là, s'en nourrir, s'en imprégner, pour que nos pensées, notre cœur soient changés, bouleversés. C'est Martin Luther qui va écrire « Quand Dieu parle, il ne prononce pas de simples paroles, mais des choses réelles. » Et combien encore aujourd'hui, la Bible que nous avons sous notre nez, est encore réelle aujourd'hui. Il dira ainsi le soleil, la lune, le ciel et la terre, Pierre et Paul, toi et moi, nous ne sommes que des paroles de Dieu. Et nous pouvons célébrer le Seigneur pour ces vérités-là. Nous ne sommes que des paroles de Dieu. Je vais terminer. Cherchez l'Éternel. Ce qui est intéressant dans ce texte et ce que j'aime beaucoup dans le livre d'Ésaïe, bien qu'il eût été écrit il y a des siècles en arrière, combien encore aujourd'hui, comme le peuple d'Israël, nous avons besoin de chercher l'Éternel. Et frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de chercher un mouvement de pensée. J'en parlais à l'église dernièrement et on parlait de paganisme. Et aujourd'hui, le monde déploie tout un tas de mouvements de pensée. On voit même la réapparition d'anciennes croyances comme les druides qui reviennent, enfin des choses qui se faisaient d'antan et qui reviennent au goût du jour. Et ce que la parole nous montre quand elle dit chercher l'Éternel, ce n'est pas courir après un bien-être. Ce n'est pas courir après justement une soi-disant paix d'âme. Mais un véritable repos qui est en Jésus-Christ. Une véritable consolation. Le chapitre 55 se termine de cette manière, vous sortirez avec joie. Vous serez conduits en paix, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable. Le cyprès et le myrte sont des arbres nobles. Et ça reflète l'œuvre que Dieu veut faire en chacun d'entre nous. Une œuvre de consolation, une œuvre d'adoration, de louange à sa gloire. Je vais vous partager un petit bout de mon témoignage, et notamment du jour où je me suis converti. Je faisais mes études sur Aix-en-Provence et je dormais au Puy Sainte-Réparade chez mes grands-parents. Et ma grand-mère m'avait installé une chambre dans un grenier. Alors j'étais entouré de toutes les vieilles photos, de tous les meubles qu'on stockait, mais j'avais mon coin. Et un jour j'ai fléchi le genou devant le Seigneur. Et je me suis humilié devant lui et j'étais en train de prier. Et cette pensée qui est venue dans mon cœur où finalement le Seigneur s'adressait à moi en me disant « Mais tu es détruit, maintenant on va rebâtir ». Et je vous le promets, depuis ce jour-là, Dieu n'a cessé de parler au travers de sa parole. Dieu n'a pas cessé de mettre les personnes qu'il fallait dans mon entourage. Et personnellement, il y a des choses que je ne pensais pas faire, comme me marier. Dieu a apaisé les tensions, Dieu a apaisé le cœur et Dieu a restauré l'âme. Et frères et sœurs, cherchez l'Éternel. C'est redécouvrir le repos qui est en Jésus-Christ. Le soutien qu'il est véritablement, c'est découvrir la joie, la consolation, la paix qui est en Christ. Amen. Je veux te bénir, notre Dieu.